Classique avec David Abiker.
7h14, c'est l'heure des voix de l'économie. François, vous recevez ce matin le directeur de la rédaction du magazine Investir.
Bonjour François Meunier.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Classique. L'événement de ces derniers jours, c'est l'envolée du Bitcoin. On avait parlé ensemble des ETF, ces fonds permettant d'investir facilement sur les cryptos. Le succès est énorme.
Oui, c'est un succès total. En seulement deux mois, on a une avalanche de demandes, de collectes sur ces fonds. Pour vous donner une ordre d'idée, le premier ETF, l'ETF Bitcoin le plus important, il a été produit par BlackRock. Il s'appelle iShares Bitcoin Trust. Eh bien, c'est l'ETF le plus rapide de l'histoire à avoir collecté 10 milliards de dollars sous gestion en seulement 7 semaines. Pour vous donner un ordre d'idée, pour l'ETF or, il avait fallu, pour atteindre cette somme de 10 milliards, 2 ans. Donc ça vous montre...
un énorme effet de mode.
Il y a un effet de mode considérable. Et sur l'ensemble des 10 ETF, on est sur maintenant des encours sous gestion qui vont atteindre cette semaine 50 milliards. Alors, c'est à la fois beaucoup et peu. 50 milliards, pour donner un ordre de grandeur, la capitalisation des valeurs du CAC 40, eh bien, c'est 60 fois plus important. Mais, et c'est là où c'est vraiment impressionnant, et on peut parler peut-être de constitution d'une bulle, il s'échange aujourd'hui, quotidiennement, eh bien, 2 fois plus de volume, 2 fois plus d'argent sur les ETF Bitcoin que sur l'ensemble des valeurs du CAC 40, alors que l'encours sous gestion est 60
fois plus
petit.
C'est tout petit, mais ça s'arrache dans les deux sens.
Voilà,
ça se rachète.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui font des allers-retours, donc on est dans un marché aussi de spéculation, spéculation pure. Et ces ETF, eh bien, bien sûr, c'est la possibilité d'acheter en bourse du Bitcoin sans passer par un wallet, passer par un portefeuille
sans
numérique.
Sans rentrer dans la technique du Bitcoin qui est un peu ardue.
Exactement. Donc, en toute sécurité, vous achetez un ETF, vous pouvez l'acheter et le vendre dans la même journée, avec des frais de gestion extrêmement faibles. Et là, il y a un engouement qui est gigantesque.
L'or a aussi battu ses records, l'once d'or à 2141 $. Et il y a des facteurs communs entre l'or et le Bitcoin, alors que, je le disais tout à l'heure, a priori, les deux n'ont rien à voir entre un lingot et quelque chose autour de la blockchain. Bon.
Oui, il y a des comportements assez similaires, alors qu'on pourrait se dire que l'or a plutôt un statut de valeur refuge et le Bitcoin plutôt réservé aux amateurs de sensations fortes, à la spéculation. Sauf que les deux, eh bien, elles arrivent à très très bien se comporter lorsque on s'inquiète sur les niveaux de dette. Et là, cette année, on va quand même parler beaucoup d'endettement, de déficit, et donc c'est un terreau extrêmement favorable à ces deux classes d'actifs. Et puis, ces deux classes d'actifs profitent aussi de la fin de la hausse des taux. Alors, on ne sait pas encore exactement quand les taux vont baisser, parce qu'on a encore une déclaration du patron de la réserve fédérale américaine, Jerome Powell, cette nuit, qui nous explique que l'inflation, elle va avoir du mal à revenir tout doucement et sûrement vers les 2%, qu'il va falloir s'armer un petit peu de patience, mais qu'il devrait quand même y avoir une baisse des taux cette année, mais... Voilà, c'est quand même plus compliqué.
Les banquiers centraux ne cessent de souffler le chaud et le froid.
Oui, ils se rendent compte que l'inflation est difficile à maîtriser, que le plus facile a été fait avec le repli des cours de l'énergie. Mais les cours de l'énergie, ça dépend pas forcément de la politique monétaire des banques centrales. Donc c'est le contexte extérieur qui a aidé à refluer rapidement l'inflation. Maintenant, le plus dur reste à faire. D'autant que on parle quasiment de plein emploi aux États-Unis et qu'il y a encore des hausses de salaire. Donc il y a une inflation de second tour qui est difficile à maîtriser.
Alors sur les taux, on verra ce que dit tout à l'heure Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui parle en tout début d'après-midi. À quoi s'attendre pour la suite sur le Bitcoin comme sur l'or? Est-ce que ça peut encore monter? C'est toujours la question.
Sur le Bitcoin, je pense que là, on est sur une phase de constitution d'une bulle. Il peut y avoir quand même quelques prises de bénéfices à court terme, parce que là, on est quand même sur un gain de près de 50% depuis le début de l'année. Donc ça va extrêmement vite et que ça monte juste pour des raisons spéculatives. C'est derrière, il n'y a quand même toujours pas d'actifs. Alors peut-être que ça va être utilisé pour faire des investissements dans le métavers, mais on voit que le métavers prend un petit peu de temps. Mais là, c'est vrai que c'est la facilité avec laquelle on peut acheter des ETF Bitcoin. Et puis on attend maintenant la possibilité d'avoir d'autres ETF dans d'autres pays pour pouvoir acheter de l'ETF Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut pas le faire en France.
Il y a encore un potentiel, mais on ne sait jamais à quel moment ça peut se casser la figure pour un jour peut-être remonter.
Voilà, la question, ça va être sur l'évolution de la dette. Il va falloir convaincre que nos économies sont résilientes. Donc en tout cas, le Bitcoin prospère sur les peurs du système existant.
L'actualité boursière, François Meunier, cette semaine a aussi été marquée par une bonne santé des indices en général, toujours à leur niveau record ou tout près, malgré le risque géopolitique qui est quand même toujours ultra fort. Est-ce que la bourse est insensible à ce climat de guerre ?
Oui, on pourrait se dire que finalement, la bourse ignore la guerre, ignore le conflit en Ukraine, sauf que c'est pas exact. C'est même totalement inexact, pour au moins trois raisons. La première, c'est qu'on l'a vu que lorsqu'il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, on a tous les indices qui se sont repliés de près de 10% en quelques séances. Oui. Donc les investisseurs ont acté que le contexte géopolitique avait changé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on commande beaucoup le CAC 40, le S&P 500, le DAX en Allemagne, les grands indices. Mais cette crainte et cette peur de la guerre, elle se manifeste pas sur les titres les plus liquides. C'est sur les sociétés de taille beaucoup plus modeste que là, on voit qu'il y a une prime de risque qui est devenue très importante. Les gérants veulent pouvoir sortir à tout moment du marché si la situation dérapait. Et on voit, par exemple, que les valeurs moyennes, voire même les petites valeurs, ne profitent pas du tout de l'embellie. Si on regarde le parcours, par exemple, du CAC 40 sur 3 ans, le CAC 40 a fait quasiment 40%. Wow. Et les valeurs moyennes, elles ont baissé de plus de 10%.
Oui.
Donc on voit que...
Il y a vraiment deux vitesses.
Il y a deux vitesses et surtout, on veut avoir des titres extrêmement liquides pour pouvoir faire des arbitrages très rapidement si jamais il y avait un conflit ou un autre conflit.
Et dans cette histoire de guerre, on avait peut-être un peu oublié les valeurs de la défense dans cette mode depuis 2-3 ans autour de la tech, de l'énergie, du luxe.
Absolument, c'est un secteur un peu oublié, on commente beaucoup moins le parcours des valeurs de la défense, alors que c'est assez remarquable, voire même exceptionnel. Hein. Quand on regarde sur 3 ans toujours, le CAC 40, on a plus 40%, Metalès fait 80% de gains, Airbus 57%, Dassault Aviation a doublé, Rheinmetall, les Allemands se mettent à réinvestir massivement dans leur outil industriel et militaire. Donc Rheinmetall, c'est un fabricant du fameux char Léopard dont on a beaucoup parlé, et plus des munitions. Eh bien, Rheinmetall, c'est plus 400% en l'espace de 3 ans. Et les Anglais, avec BAE Systems, sur un gain de près de 160%.
Donc, gros de la défense se portent bien.
Donc les valeurs de la défense, aujourd'hui, sont extrêmement recherchées. Et on l'a encore vu cette semaine avec Thales, dont le carnet de commandes a fortement progressé. Hein. Thales, aujourd'hui, c'est un carnet de commandes de près de 45 milliards, alors qu'ils font à peine 18 milliards de chiffre d'affaires. Donc il y a une excellente visibilité.
François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, merci beaucoup ce matin dans les Voix de l'économie.
Merci à tous les deux et François Geffrier, à demain pour la matinale de l'économie. Dès 6h, à suivre les coulisses de la politique, le président reçoit ce matin les partis à l'Élysée pour leur parler de la guerre. Piège ou partage d'informations stratégiques, explication à suivre de David Doucan, ce sera dans 3 minutes.